Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur Riverwood Podcast. Je suis le frère Alain Mizel, fondateur des ministères Riverwood International ici à Laval, au Québec, Canada. Nous continuons sur notre série d'enseignements sur le sujet « Connaître Dieu ». Nos podcasts sont disponibles sur www.riverwood.podomatic.com ou en souscrivant à iTunes, Twitter ou Facebook et sont sponsorisés par les ministères Riverwood International ici à Laval, au Québec, Canada. Si vous nous suivez un peu partout dans le monde, nous serons contents d'avoir de vos commentaires et de savoir que ces messages raffermissent votre foi et vous permettent de grandir dans le Seigneur. Et bien, cette semaine, nous allons commencer l'étude des traits de caractère moraux de Dieu. Nous avons donc, dans un premier temps, fini la première partie sur les traits de caractère majestueux de Dieu. Nous embarquons maintenant sur les traits de caractère moraux de Dieu. Nous commençons aujourd'hui avec la sainteté. Sainteté, un caractère moral de Dieu. Sainteté, un caractère moral de Dieu. Nous avons bouclé donc l'étude des traits de caractère majestueux de Dieu qui définissent sa grandeur, sa splendeur et son œuvre puissante de délivrance révélée dans sa création. Il est absolument important que chaque chrétien connaisse les traits de caractère divin parce qu'ils nous permettent de comprendre la nature de notre Père Céleste dans son être suprême. Aujourd'hui, nous commençons donc l'étude des traits de caractère moraux de Dieu. Les traits de caractère moraux de Dieu sont sa sainteté, son amour, sa justice et sa bonté révélée dans son interaction avec l'homme. Tout comme les traits de caractère majestueux, les traits de caractère moraux de Dieu marchent en une seule unité. En d'autres termes, les attributs de caractère moraux et majestueux de Dieu fonctionnent toujours ensemble et sont éternellement présents. Nous ne pouvons appeler son amour le samedi, sa justice le dimanche et sa bonté le mercredi. Chaque fois que nous faisons appel à un des traits de caractère de Dieu, il vient dans un tout, accompagné par les autres traits de caractère majestueux et moraux. Par exemple, si nous demandons l'amour divin, son amour va se manifester à nous, omniscient, omnipotent, omniprésent, immuable, parfaitement saint, tout juste et bon. Alléluia. Apocalypse au chapitre 15, Apocalypse 15 au verset 4, nous donne un aspect, nous donne une certaine revue de la sainteté de Dieu. Apocalypse 15 nous donne un aperçu de la sainteté de Dieu. « Qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom ? Oui, toi seul, tu es saint, et toutes les nations viendront t'adorer parce que tes actes de justice ont été révélés. » Toutes les nations viendront t'adorer parce que tes actes de justice ont été révélés. Être saint, c'est être mis à part ou séparé. Dieu, de par sa nature, est saint et est à part, mis à part. Et quiconque ou tout ce que Dieu met à part pour lui-même est aussi appelé saint. La sainteté de Dieu signifie qu'il est séparé et différent de toute sa création et qu'il y a un grand vide qui sépare le Créateur Dieu de sa création. Et naturellement, la Bible nous dit que les voies de Dieu ne sont pas nos voies et ses pensées ne sont pas nos pensées. Psaume au chapitre 5, Psaume 5, verset 5, dit ceci, « Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal n'a pas sa place auprès de toi. » Alléluia. Tout comme les Hébreux du Premier Testament, les chrétiens d'aujourd'hui tendent à oublier la sainteté divine, la sainteté de Dieu. Et nous nous concentrons sur son amour, sur son pardon, sur sa grâce. Tout ça, c'est des bonnes choses, mais il est toujours important de savoir que Dieu reste un Dieu saint. Alléluia. Et David en a fait l'expérience. D'ailleurs, une mauvaise expérience pour comprendre la sainteté de Dieu. Quand son serviteur Uzza toucha l'arche de l'Alliance en essayant d'aider Dieu. Et finalement, on mourut. Cette histoire est racontée dans le livre de Samuel, 2 Samuel au chapitre 6, versets 6 à 8. 2 Samuel 6, versets 6 à 8. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de battage de Nacon, Uzza tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut troublé parce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uzza. Et cet endroit a été appelé jusqu'à aujourd'hui Pérez Uzza. Ésaïe nous donne également un petit aperçu de la sainteté de Dieu suite à sa rencontre avec Dieu qu'il nous relate dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 5. L'année de la mort du roi Ozias. L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheurs à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Alléluia. Dieu a toujours voulu, malgré sa gloire, malgré sa magnificence, sa sainteté, révéler sa sainteté à l'homme. Et cela malgré son péché, sa faiblesse et sa fragilité. Mais il ne pouvait le faire sans risquer la destruction de l'homme par la magnificence de sa sainteté et sa puissance. Et bien, pour y arriver, Dieu a donc choisi un peuple. Le peuple juif, à travers l'alliance scellée avec Abraham, il va donc mettre les Hébreux à part parmi les autres peuples du monde. Dieu sépara les Hébreux comme une nation sainte qui fera jaillir la lumière divine sur les peuples païens autour d'eux. Voici ce que le livre d'Exode dit à ce propos. Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement. Vous m'appartiendrez personnellement. Dit Dieu aux Hébreux qu'ils lui appartiendront personnellement parmi tous les peuples. Car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Dieu voulait que Israël, que le peuple hébreu soit un royaume de prêtres et une nation sainte. Pour lui. Alléluia. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Cela était le plan et le dessein de Dieu pour Israël et pour le peuple juif. Alléluia. Dieu va donc montrer sa sainteté aux Hébreux à travers Moïse et les prophètes majeurs et mineurs et au mont Horeb et par le tabernacle où Dieu viendra visiter son peuple et rester parmi son peuple. Finalement, Dieu va décider de mettre chair et sang sur sa sainteté, voulant venir et demeurer parmi son peuple, parmi nous, et être l'exemple, un exemple vivant. Il viendra pour être un exemple vivant de la sainteté en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Tout-Saint. Même les démons, d'ailleurs, l'ont reconnu comme saint. En voilà l'exemple dans le livre de Marc. Marc au chapitre 1, verset 23-24. Marc, chapitre 1, versets 23 à 24, dit ceci. Il y avait dans leur synagogue, Jésus rentra dans une synagogue, et là, il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, un esprit impie. Il s'écria, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. » Eh bien, ça, c'est l'esprit chers frères et sœurs, qui est en train de parler à Jésus, qui dit à Jésus, l'Esprit en l'homme qui dit à Jésus, « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Voyez-vous ici que même les esprits, même les démons, un démon qui reconnaît Jésus comme étant le Saint de Dieu. Alléluia. Eh bien, Jésus montra sa sainteté au mont Tabor, lors de la transfiguration, tel que reporté par Matthieu, dans Matthieu 17, au verset 1 à 7. Matthieu 17, verset 1 à 7, Jésus montre sa sainteté à ses apôtres. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne, c'est le mont Tabor, naturellement. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Qui s'entretenait avec lui? Ben, c'était Moïse et Élie qui s'entretenaient avec Jésus. Alléluia. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix et fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Eh bien, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Eh bien, tout comme Dieu est saint, il veut te voir en tant qu'imitateur de Christ, en tant que chrétien, imitateur de Christ, vivre une vie sainte et consacrée devant lui. Alléluia. Quand tu es devenu né de l'esprit, ou né de nouveau, c'est la même chose, frères et sœurs. Dieu t'a séparé du monde. Dieu a mis en toi son Saint-Esprit. Dieu a mis en toi son Saint-Esprit pour t'aider à vivre une vie séparée du monde. Le Saint-Esprit en toi écris la parole de Dieu sur les tablettes de chair de ton cœur. Alléluia. Tu vis dans ce monde en tant que chrétien, mais tu n'es pas de ce monde. Ta façon de vivre et ton standard de vie, ton standing de vie, doivent être totalement différents de ceux du monde. Gloire à Dieu. Eh bien, voici ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre au chapitre 2. Verset 9, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire de qui? Ben, au contraire du monde. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alléluia. Un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Gloire à Dieu. Jésus ajouta ces paroles dans le même sens d'ailleurs, dans Matthieu au chapitre 5, versets 13 à 14. Matthieu 5, 13 à 14. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. De la même manière qu'on met une lampe sur une montagne, alléluia, qu'on la met sur un support, que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir. Alléluia. Afin qu'ils voient, pas qu'ils devinent, qu'ils vous voient faire, qu'ils voient votre belle manière d'agir. Et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Quand vont-ils célébrer la gloire de votre Père Céleste? Quand ils vont vous voir votre belle manière de vivre? Quand ils vont vous voir votre manière de vivre selon le royaume? Votre manière de vivre dans la sainteté divine? Quand ils vont voir votre haut standard de vie, votre standard de vie chrétien, votre façon de vivre qui est différente de la façon dont vous avez vécu avant de connaître Christ? Alléluia. Gloire à Dieu. Le mot grec pour saint qui est utilisé ici est agios. Il a la même signification que saint pour définir une personne que Dieu met à part pour lui-même. Alléluia. Le terme hébreu pour définir ce qui est séparé ou mis à part est le terme makadesh. Makadesh veut dire séparé. Eh bien, voici ce que Paul dit à ce propos dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. Paul écrit à l'église de Corinthe et il écrit ceci en partant, en commençant. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. À ceux qui ont été conduits à la sainteté. À ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints. Appelés à être saints. Vous avez été appelés à être saints, c'est ce que Paul est en train de dire. À tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Alléluia. C'est un passage merveilleux. Le mot que Paul utilise dans ce verset, traduit faussement église, quand il parle à l'église de Dieu à Corinthe, eh ben, ce mot utilisait une mauvaise traduction grecque du Septuagint. Ce mot est grec est simplement ecclesia. Ecclesia. E-K-K-L-E-S-A-I-S-I-A. Ecclesia. Le mot d'origine hébreu, qui était traduit en grec, en ecclesia, eh ben, ce mot hébreu, c'est synagogue, synagogue, ou le mot Eda, E-D-A-H, ou le mot Kahal, K-A-H-A-A-L, qui signifie une assemblée, ou une réunion. Et dans ce cas, Paul faisait référence à une réunion, une assemblée des saints qui étaient à Corinthe. Alléluia. Paul veut dire que quand Dieu t'a appelé à lui-même, et que tu es devenu chrétien, en vertu de cet appel, tu as été mis à part, séparé, sanctifié en Christ et tu as été proclamé saint. Alléluia. Le mot grec dans ce passage pour dire conduit, tu as été conduit, tu as été appelé à la sainteté, ce mot grec est kletos. Le mot grec pour avoir été conduit ou a été appelé à la sainteté, avoir été appelé, ce mot appelé, en grec, c'est kletos, qui signifie divinement choisi et nommé. Divinement choisi et nommé. Alléluia. Vous pouvez non pas en avoir le sentiment, ni la démarche, ou encore moins la pensée. Vous pensez ne jamais le vivre. Mais Dieu vous regarde comme un saint. Et son désir est de vous voir vivre cette sainteté. Eh bien, comment allez-vous la vivre? Comment allez-vous vivre cette sainteté? C'est en laissant le Saint-Esprit de Dieu vivre la vie de Jésus-Christ par vous, en l'invitant à diriger votre vie chaque jour, et avant même que vous vous en rendiez compte, eh bien, vous commencerez à refléter l'image et la ressemblance de Jésus-Christ et à être digne de l'assertion de Pierre dans 1 Pierre au chapitre 1, versets 13 à 16. 1 Pierre 1, 13 à 16. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, dit Paul. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois. Ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois en enfant obéissant, quand vous étiez dans l'ignorance. Pierre dit que quand vous aviez ces désirs, d'avant que vous deveniez chrétien, vous étiez ignorant. Maintenant, vous savez mieux, vous connaissez mieux. Alléluia. Au contraire, verset 15, au contraire, puisque Celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. Alléluia. En effet, il est écrit, vous serez saints car moi, je suis saint. Amen et amen et amen. Eh bien, nous vous remercions de votre visite et espérons vous retrouver dans les deux semaines qui viennent. Eh bien, vous pouvez toujours accéder à nos podcasts sur nos sites, notamment au site www.riverwood.podomatic.com ou alors sur tous nos autres sites Twitter et Facebook. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.